c'est normal que ce soit difficile pour vous de bien comprendre l'ordre de ces deux recherches, c'est-à-dire la recherche de ce que sont les principes propres de ce qui est en tant qu'être. On découvre la substance, l'ousia, la substance, comme principe propre de ce qui est sous la lumière de sa détermination, de sa cause formelle. Ça, il faut que c'est le point de départ de la métaphysique. Et puis, nous découvrons ensuite le point de vue de la causalité finale, ce en vue de quoi l'être est. C'est pas commode à penser, du reste, hein. Parce que quand on est au niveau de l'être, on doit serrer l'intelligence qui doit demeurer à ce niveau-là. Ce en vue de quoi ce qui est en tant qu'il est, est la finalité. Et c'est une question fondamentale. Oui. Et il faut se les reposer souvent, soi-même, hein, parce que c'est comme ça que notre intelligence recommence à vivre. Quand elle se pose ces interrogations, qu'est-ce qui détermine ma vie? Qu'est-ce qui la finalise? Et déjà, arriver à distinguer la détermination et la finalité, c'est pas si commode. Et ça vous demande du temps avant d'arriver à déterminer ce que la détermination et la finalité. Recherche de la cause formelle, recherche de la cause finale. Ce en vue de quoi existe une chose. Ce en vue de quoi existe une chose. Ce n'est pas sa détermination. La détermination, c'est son intelligibilité. C'est ce qu'elle est. Tandis que ce en vue de quoi, c'est ordonné vers quelque chose qui m'attire, la finalité, ce qui m'attire, la fin, c'est ce qui m'attire. Bon. Ayant déterminé ces deux grands principes de ce qui est, en tant qu'il est, principe de détermination, principe de finalité, nous nous posons la question intérieurement, comment cela existe-t-il? Vous voyez, c'est toujours les deux grandes questions qu'Aristote prend et que la scolastique n'a plus pris. Il faut souligner ça parce que c'est important de fait. La question du ti esti et la question du pos. Comment? Et je vous ai déjà dit, hein, pour que vous ayez devant les yeux quelque chose de bien net, prenez le récit de l'Annonciation. Pour moi, le récit de l'Annonciation est merveilleux pour ça. Le Père interroge Marie. Acceptes-tu d'être la mère du Fils du Très-Haut? Et puis, tout de suite, Marie se pose la question, comment cela peut-il se faire? Je ne connais point d'homme. Oui, vous avez les deux. ce que c'est une pause. Et ça, c'est notre vie. Hein. C'est que nous sommes tout le temps entre ces deux interrogations. Et il faut bien les distinguer. L'interrogation du ti esti, ti esti en grec, qu'est-ce que c'est? Et je le prends exprès chez Aristote. L'interrogation du ti esti, qu'est-ce que c'est? Et toutes les interrogations des causalités, c'est du ti esti. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est au point de vue formel? Qu'est-ce que c'est au point de vue final? Qu'est-ce que c'est au point de vue efficience? Qu'est-ce que c'est dans l'ordre purement matériel? Qu'est-ce que c'est? L'intelligence qui s'éveille. Il faut assister à l'éveil de l'intelligence. Hein, c'est plus intéressant que d'assister à l'éveil du soleil le matin. L'intelligence qui s'éveille, qui se pose... Qu'est-ce que c'est? Ti esti. Et je me pose, selon ces diverses modulations, ti esti, qu'est-ce que c'est? Du côté matériel, du côté formel, du côté efficacité, du côté final, du côté exemplaire. Il n'y en a pas d'autre. Je suis bien. Et c'était le génie d'Aristote de rassembler ça. Tout simplement. Et puis ensuite, on se pose la question, mais comment cela peut-il se réaliser? Vous voyez, je suis dans l'ordre de la réalisation de la chose, pas dans l'ordre de l'intelligibilité, mais dans l'ordre de la réalisation. Il faut... Et ça, je crois que nous pouvons tous arriver très facilement à distinguer ça. Ces deux types d'interrogations. L'interrogation du « qu'est-ce que c'est ?» Et puis l'interrogation « mais comment réaliser ça ?» Bon, il faut que ça, vous soyez très habitués à faire cette distinction-là. Vous voyez, depuis... Le positivisme français d'Auguste Comte, je parle pour les Français, on n'est plus du tout habitué de faire cette distinction. Parce qu'on ne la fait pas en science expérimentale. On est toujours dans le comment. Et la découverte se fait à travers le comment. Tandis que, quand on comprend cette distinction, qui est-ce et comment, on découvre le point de vue de l'intelligibilité de la chose, on ne la fait pas, on l'analyse, l'intelligibilité. Et puis, le comment. Comment réaliser ça? Le point de vue de la personne, c'est de l'ordre du comment. Il faut arriver... à bien comprendre cela. C'est pas commode, hein. Et en faisant ça, on travaille en fouille. Parce qu'on s'est pu poser comment réaliser ma personne. Je ne dis pas comment réaliser ma nature. Comment réaliser ma personne? Posez-vous la question. Arrivez à que cette question soit pour vous une véritable question. Voyez, comment devenir un saint religieux? C'est quand même important. C'est la question de votre noviciat. Comment devenir un saint religieux? C'était pas savoir ce que c'est qu'un saint religieux. Ce que c'est qu'un saint religieux, on y arrive. Mais comment y arriver, moi, à cette chose? C'est comment? Le comment, le komodo. voyez, cette distinction, faut pas l'oublier. Chez les savants positivistes, Auguste Comte, il n'y a plus que cette question. Comment réaliser la chose? Alors, par le fait même, on a une certaine répugnance, hein, ça sent le positivisme. Mais non, mais cette question du comment est tout à fait juste. Aristote l'a posée. Après, après se poser la question, qu'est-ce? Je découvre l'intelligibilité et je définis les choses. Je me pose la question du comment. Comment réaliser ça? Alors, je vois au point de vue métaphysique, au point de vue de l'être, toutes les expériences que j'ai de la réalité, de ce qui est, de ce qui existe autour de moi. Il y en a une interrogation particulièrement importante. Comment réaliser le plus pleinement possible mon existence? Je n'existe pas comme une vache. Je n'existe pas comme un animal. J'existe d'une manière très particulière. Il est unique, comparativement à tous les êtres qui sont autour de moi. C'est que je suis maître en partie du développement de ma vie, du développement de ma personne. Ah, du développement de ma personne. Ma personne, c'est une manière spéciale d'être. J'existe comme une personne. Et mon voisin, il existe aussi comme une personne. Quelle différence y a-t-il entre son existence et l'existence d'un animal? Vous comprenez que c'est capital comme problème. Et que c'est le problème métaphysique qui vient tout de suite après qu'on a essayé de saisir qu'est-ce que c'est que le principe propre de ce qui est. En tant qu'il est, je pose la question, comment puis-je exister de la manière propre dont je suis? Exister avec cette note spéciale de ma finalité. Je suis fait pour atteindre des réalités supérieures à moi, si elles existent. J'ai en moi cette capacité. Je me pose ce problème-là. Ces réalités existent-elles ou pas? Et puis les atteindre. Mais alors, il faut d'abord voir ce que je peux atteindre. Ce qui est dans ma capacité d'atteindre. Qu'est-ce qui est le propre de mon activité quand je suis parfaitement éveillé et que je suis moi-même? J'essaie de découvrir ça. Vous voyez, essayer de bien découvrir ce que représente exactement cette interrogation du comment. pour l'existence de l'homme. L'homme existe d'une manière spéciale en tant qu'homme. Il n'existe pas comme un animal. Il existe comme quelqu'un qui est capable de s'ordonner. J'ai fait un choix dans ma vie. Je veux que ma vie soit ordonnée d'une manière contemplative. Je veux que ma vie soit ordonnée d'une façon où je puisse aider mes frères, aider ceux qui sont avec moi. Le comment de ma vie. C'est ce comment de ma vie que j'essaie d'étudier. Une fois que je vois bien ce que je dois étudier, je voudrais que tous vous le voyez très bien, parce que c'est important, autrement on avance sans voir ce qu'on fait. Mais ça, il faut suffisamment s'arrêter pour se poser pour nous-mêmes, hein. Et ça, c'est pour vous. C'est pas le comment de votre voisin, c'est votre comment. Comment vous allez exister en homme? Comment existez-vous selon ce qu'il y a de tout à fait propre en vous? Ce qui vous caractérise, ce qui fait que vous n'êtes pas un animal. Vous pouvez avoir une très grande familiarité avec les animaux, c'est très bien, mais vous vous fatiguez assez vite. C'est assez fatigant de vivre toujours avec un chat. L'horizon est court. C'est assez fatigant de vivre toujours avec un chien. L'horizon va un peu plus loin que pour le chat. Pas tellement plus loin. Et ainsi de suite. Comprendre l'horizon de votre vie. Où vous atteignez ce que vous désirez atteindre. Alors, ici, c'est plus cette question. Pourquoi ne prenons-nous pas comme point de départ de l'étude philosophique de la personne humaine le caractère unique et singulier de chaque individu? Quelle est l'erreur qui en découlerait? La différence entre l'individualité et la personne. Ça, je crois que c'est très juste et très intéressant. Nous sommes tous des individus. Et nous tenons beaucoup que notre individualité soit respectée. Et si à côté de moi, quelqu'un qui est tellement puissant et qui m'efface dans mon coin, je résiste petitement en lui donnant des petits coups pour reprendre une situation qui soit la mienne, de mon individualité. L'individualité n'est pas la personne. Mais c'est très juste que l'individualité arrive toujours tout de suite, dès que je me pose la question du comment. Je suis un individu. Et je ne suis pas encore une personne. Je suis un individu et je tends à une personne. L'individu, il existe tout de suite, dès votre naissance. C'est un individu. D'abord, c'est qu'on vous, on vous donne un numéro. Vous êtes un numéro, donc un individu. à tel endroit, avec tel poids, avec tel parent. Et vous vivez là. Vous situez l'individu. Votre carte d'individu, votre carte d'identité, hein. Votre carte d'identité qui vous est si chère. Votre carte d'identité, c'est votre carte d'individuation. Pas du tout de votre personne. Non. Votre personne, quand on vous dit votre carte d'identité, montez-moi votre carte d'identité. Oui, vous avez votre carte d'identité. C'est intéressant, le poids, oui, c'est évident. C'est intéressant, tous les renseignements, oui, c'est sûr. Mais ça ne dit rien sur votre personne. Rien du tout. Ça donne quelques petits caractères particuliers de votre corps qui permet, par le fait même, s'il y a des recherches, d'arriver à vous trouver comme individu. L'individu, c'est très intéressant, mais c'est la causalité matérielle. L'individu, chez moi, c'est mon corps, c'est ma manière de vivre, c'est le style spécial que j'ai, c'est tous les caractères très particuliers et uniques. Quantité, qualité, poids. C'est que je suis un être individué par la matière et je suis caractérisé et je puis me caractériser par la matière. Je distingue d'un autre. L'individu fait partie de ma personne, ça c'est sûr. L'individu fait partie de ma personne. Mais ce n'est pas ma personne. C'est le côté physique, c'est le côté matériel. Je pèse tant. Si j'arrive à une grosseur phénoménale, ma grosseur, ça fait de l'effet. C'est sûr. Ma grandeur aussi. Si je suis poids moyen, grandeur moyenne, taille moyenne, ça fait pas beaucoup d'effet. C'est moyen. Alors, je passe tout simplement pour la moyenne. Et je passe avec le roux de la foule. Ah, tandis que si je mesure 2 mètres 5, avec les 5 en plus, oh là, hein, si mon poids dépasse le poids normal d'un jeune homme de 20 ans, et que ça devient quelque chose d'assez effrayant, votre voisin d'avion s'en aperçoit. Ça ne dit rien du tout de plus que l'individu, ça. Ça me montre un individu que je vois. Pas de mystère dans l'individu. Donc, il faut bien distinguer l'individu. Ça fait partie de la personne. Ah oui, c'est sûr. C'est évident que notre individualité fait partie de notre personne. Mais il fait partie de notre personne par notre corps. C'est par notre corps. C'est pas par votre intelligence que vous êtes individué. Tiens, vous n'êtes pas individué par votre intelligence, mais par votre corps. La quantité, ça se voit, ça se pèse. Et on pas y tromper. C'était le père Carigou qui avait demandé à un père d'aller aux Françaises de ses sœurs qui arrivaient par le train à Rome. Alors il dit, mais je ne les connais pas, votre sœur. Oh, ne vous inquiétez pas, elle est très intelligente. Alors, il la regarde et il dit, mais c'est pas ça qui va vous montrer qui est votre sœur. Ah, vous croyez? Non, non. Donnez-moi un détail extérieur. Elle est grande, elle est petite. Elle est très intelligente. Mais très intelligente, ça ne fait pas partie de notre individu. C'est curieux du reste, non? Ah, la finesse de votre intelligence peut faire partie de votre individu. Vous êtes comme un petit animal qui arrive toujours à trouver son chemin. Pas comme un éléphant où il faut beaucoup de place pour trouver son chemin. Un éléphant en garde de lion, ça se voit. Une petite puce, ça ne se voit pas. L'individu. C'est la quantité joue un nombre. Il faut une qualité primordiale. On dépasse l'individu. L'individu, ça fait partie de mon conditionnement. Ça fait partie de mon conditionnement particulier. Et j'essaie, c'est la première chose que je dois faire, j'essaie de découvrir toutes les notes spéciales dans l'ordre de l'être, puisque je suis en métaphysique, qui font partie de ma personne. C'est un premier travail. Alors, je vais noter avec vous ce qui me semble être les 6 caractères particuliers de la personne. Toute personne implique. Une autonomie dans l'être. Bon, il faudra voir comment ça se rattache à notre âme. Notre âme, c'est notre substance. Hein? C'est ça qui nous donne notre autonomie. Particulière, spéciale. Je sais bien qu'aujourd'hui, on ne veut plus reconnaître l'âme. Mais on reconnaît que chacun a une autonomie. L'autonomie dans l'être, qui fait que on est quelqu'un. Cette autonomie dans l'être va, pour chacun d'entre nous, va impliquer une recherche de la vérité. S'il n'y a aucune recherche de la vérité, y a-t-il encore une personne? Recherche de la vérité pratique, recherche de la vérité plus spéculative. Autrement dit, l'activité intellectuelle qui me permet de me situer et de situer en moi cette recherche de vérité. L'éveil de mon intelligence, ça fait partie de ma personne. S'il n'y a plus éveil de l'intelligence et recherche de la vérité, y a-t-il encore une personne? Cette capacité d'aimer. Vous voyez, 3 notes qui me semblent absolument capitales. pour définir ce que la personne, l'autonomie dans l'être, cette recherche de vérité et cette capacité d'aimer. C'est les trois points premiers qui constituent mon activité humaine, qui constitue ma personne. Ensuite, il y a la prudence. Autrement dit, il y a nécessairement en moi cette dualité, une recherche de la vérité pour elle-même, recherche de la vérité pour moi. Cet éveil à la prudence, c'est ce qui caractérise un homme au point de vue pratique. Plus complexe hein, que les trois premières qualités. C'est fait vraiment partie de ma vie, de ma complexité de ma vie, corps et âme. Ah tiens, le commencement de mon corps qui intervient dans ma personnalité, dans ma prudence. Il y a la prudence et l'art, la capacité du facere, l'art. Une personne qui n'a aucun sens de l'art, du facere, ça manque sa personne. Nous l'avons tous en partie. Ensuite, je précise, la place du corps. Mon corps fait partie essentielle de ma personne. Vous voyez, individu et personne vont se rejoindre dans cette réalité du corps. Le corps fait partie essentielle de ma personne. Mais il n'est pas la partie première. Je dis essentielle, mais pas première. Quand le corps fait partie de la partie première de ma personne, ça met à ma personne un relief très particulier, le sportif, qui met le développement de son corps en premier. Le développement de son corps devient pour lui l'occupation principale. Une occupation essentielle et seconde. C'est très très important de bien situer la place du corps dans le point de vue de la personne. Mais une place essentielle, ça c'est sûr. Une place seconde, pas première. Si c'est premier, ça fait quelque chose de tout à fait particulier et ça pose le problème. Est-ce encore vrai de mettre le corps comme le développement principal de la personne? Oui. C'est intéressant de voir nos exagérations. Comment nous pouvons très bien, dans le développement de notre personne, donner au corps une place qui n'est pas juste. Une place qui est vraie, essentielle, mais qui n'est pas juste, parce qu'à la place de mettre en second, on la met en premier. Pour certains, le développement du corps devient quelque chose d'absolument primordial. Vous voyez ? Alors, au fond, confusion entre personne et individu. Quand le corps est premier, principal, il accapare un peu toutes nos forces premières. On le voit dans certains cas, le sportif. À ce moment-là, l'individu prend la place de la personne. Et c'est pour ça que c'est si important de voir exactement la place du corps dans le développement de la personne. Vous avez ces six dimensions. Il faut beaucoup y réfléchir, du reste. Parce que si il y a d'autres aspects qui vous apparaissent comme absolument essentiels, il faut que vous le notiez et en voir si c'est vrai. Il faut découvrir ces six dimensions comme essentielles à la personne. Une personne implique essentiellement ces six dimensions selon un certain ordre. Et selon l'ordre qui est donné, fait que notre recherche de la personne se différencie. Nous n'avons plus le même sens de la personne. Vous voyez, je vous disais, ce qu'il y a de tout à fait primordial, c'est autonomie, intelligence, volonté. Si c'est ça qui domine en nous, ça donne un sens de la personne très particulier. Dans toutes mes activités qui sont personnelles, il y a un écho de mon autonomie, il y a une présence de la vérité, de la recherche de vérité, il y a une présence de l'amour. Dans toute recherche véritable de la personne, il y a une présence de la prudence, de l'art et du corps. Trois en haut, trois en bas, le corps et l'âme. Et il y a une certaine, septième dimension personne. C'est lorsque, précisément, la personne découvre l'existence de Dieu. Et alors, une certaine septième dimension. Et l'activité de l'adoration. L'activité d'adoration qui reconnaît cette présence de Dieu, qui est une présence essentielle à la personne. Et c'est très étonnant, hein, parce que que nous arrivons à ces sept dimensions pour que la personne soit parfaite. Parce que je peux dire que celui qui s'arrête au corps et qui ne veut pas regarder la présence du Créateur, il fausse la perspective de la personne. Il la fausse lourdement. Oui. C'est étonnant, hein, vous savez, ce chiffre de l'Apocalypse de l'homme, 666, et qui n'arrivait jamais au septième. Et philosophiquement, parce que cette recherche doit être philosophique, philosophiquement, je vois que la personne humaine qui reconnaît Dieu, la présence du Créateur, a sept dimensions. Sept dimensions qui s'imposent et que je ne peux pas supprimer. Si j'en supprime une, il y a quelque chose qui manque à la personne. Elles sont plus ou moins développées, c'est évident. La prudence et l'art, c'est très variable. Pour certaines personnes, le point de vue art est très secondaire. Mais il est très secondaire, il est essentiel. Celui qui nie absolument le point de vue de l'art, il lui manque quelque chose au point de vue personne. Je crois que ces sept dimensions sont vraiment les sept dimensions nécessaires à tout développement personnel. Tout développement personnel va impliquer ces sept dimensions. Mais l'équilibre, l'ordre, autrement dit, de ces sept dimensions peut être extrêmement différent et varié, qui donnera à la personne un caractère particulier. Il est évident que une recherche très profonde de la vérité qui exige un développement de l'intelligence très profond et pas aller très loin peut modifier entièrement la personne humaine. Le développement affectif peut lui aussi modifier complètement la personne humaine. Autrement dit, on est en présence, étant donné ces sept éléments, ces sept dimensions, on est en présence de diverses modalités de la personne humaine. La personne humaine n'est pas seulement une manière d'être. La personne humaine, elle a sept dimensions, et ces sept dimensions sont essentielles, donc on ne peut pas les supprimer, mais elles jouent un rôle très différent. Prenez, pour que vous compreniez bien, la différence entre la personne d'un artiste, c'est un type spécial de personne humaine. L'artiste, Et la personne d'un homme prudent. Prudent dans son engagement politique. Prudent dans son engagement familial. Prudent dans son engagement individuel. Les développements extrêmement variés de la personne. Et c'est toujours la personne. Alors vous allez me dire, au fond, ces développements, vous regardez tout de suite un point de vue psychologique. Est-ce que ces développements font partie vraiment d'une recherche métaphysique? Et ça, il faut pouvoir le justifier au terme. Un développement métaphysique est un développement où le point de vue de l'être est explicitement développé. Si le point de vue de l'être n'est pas explicitement développé, vous n'avez pas un développement métaphysique. Donc est-ce que cette recherche de la personne fait encore partie de ma métaphysique? Dans le contexte d'aujourd'hui, très facilement, on fera que cette recherche de la personne est beaucoup plus psychologique que métaphysique. Alors, regarde la vie. Alors, il y a quelque chose de vrai. Il faut bien voir que ce développement de ma personne se fait d'une façon visible au point de vue de la vie. Développement de la volonté ou développement de l'intelligence, c'est quelque chose de très vital pour moi. Et c'est même ce qui est de principal dans le point de vue psychologique. C'est le développement de mon intelligence, c'est le développement de ma volonté. Le développement de la prudence, c'est second. C'est très important, mais c'est second. Et c'est très important, donc ce sera beaucoup plus manifeste, beaucoup plus visible, mais ce n'est pas aussi important que le développement de l'intelligence et de la volonté, qui me paraît beaucoup plus fondamental. Il faut bien comprendre que cette recherche de la vérité ne peut être complète que si elle va jusqu'à la recherche de Dieu. C'est-à-dire la septième dimension de ma personne. Si cette recherche de la vérité ne peut pas atteindre Dieu, cette recherche de la vérité n'est pas parfaite. Elle est partielle. Donc, il faut, parmi ces dimensions de la personne, cette recherche de la vérité qui puisse me découvrir dans ce que je suis moi-même, le plus profondément moi-même, c'est-à-dire comme créature de Dieu. Et ceci, c'est vrai pour cette recherche de la vérité, comme pour la recherche de l'amour. Si je ne vais pas jusqu'au bout dans cette recherche de l'amour, et que je reste uniquement à la dimension humaine, je n'ai pas été jusqu'au bout. Le problème l'amitié est absolument essentielle. Elle est recherche des diverses dimensions de la personne humaine. Donc, c'est absolument nécessaire de regarder ce développement qui peut aller jusqu'au bout, celui de savoir dans quelle mesure notre intelligence et notre volonté peut atteindre l'existence de Dieu. Je crois que c'est par là que nous voyons que la recherche de la personne doit être métaphysique en premier lieu. Parce que mon autonomie, ma recherche de vérité, ma recherche de l'amour ne peuvent aller jusqu'au bout que si justement nous découvrons que notre intelligence est faite pour l'existence de Dieu, que notre cœur est fait pour s'unir à la volonté de Dieu. Autrement, nous restons à mi-chemin. Or, c'est très dangereux de rester à mi-chemin dans l'ordre du comment. Dans l'ordre du comment, la finalité joue un rôle primordial. Et donc, cette recherche de la finalité, c'est la recherche de Dieu, de son existence, de son amour. Et elle transforme tout de suite le sens de ma personne. Tout de suite. Ce n'est pas quelque chose d'à côté. Ce n'est pas quelque chose de secondaire. C'est quelque chose d'essentiel. Donc la recherche de la personne réclame d'une façon impérative la recherche de l'existence de Dieu. Et que, immédiatement, cette recherche, acceptée ou pas acceptée, modifie complètement ma recherche de ma personne. Parce que il y a une profondeur alors que je ne veux pas regarder. Et je veux regarder uniquement la dimension de l'homme par rapport à l'homme. Et non pas l'homme par rapport à sa propre finalité. De sorte que la recherche de ces notes particulières de la personne humaine sont essentiellement métaphysiques. Là, moi, j'aimerais beaucoup que, devant cette affirmation, si vous l'acceptez, très bien, si vous ne l'acceptez pas, il faut que vous-même, vous fassiez l'effort de mettre par écrit pourquoi vous ne l'acceptez pas. Ça, c'est capital. Parce que tant qu'on n'a pas fait cet effort-là, il reste quelque chose qui nous empêche de grandir. La personne, c'est nous. Et notre personne, elle grandit dans la mesure où les obstacles, nous essayons de les dépasser. Or, c'est évident, le grand obstacle, c'est de s'arrêter. C'est-à-dire, la formation de la personne n'est pas métaphysique, elle est psychologique. Vous voyez, pour la plupart des gens, la formation de la personne et psychologique. Et nous faisons partie de ces personnes. Si nous ne sommes pas arrivés à découvrir par nous-mêmes, je dis bien par nous-mêmes, pas uniquement affectivement, parce qu'il le faut, mais par nous-mêmes, découvrir que la recherche de la vérité est essentielle à la personne. La recherche de l'amour spirituel est essentielle à la personne. Puisque le développement de la prudence dépend de ce développement-là, foncièrement. Et le développement de la personne humaine dépend de cette recherche de vérité. Donc, on est responsable en face de Dieu, on est responsable du développement plus ou moins profond de notre propre personnalité.